FrancOuest est une production de l'Association des francophones des Kootenays Ouest,
AFCO,
diffusée sur webouest.ca.
Entendons-nous bien.
Une partie de moi aimerait ne pas avoir envie, mais je sais que j'ai encore envie. Ce qui est une intéressante situation à me trouver, c'est presque... Tu te demandes si ça, à quoi ça sert et pourquoi vouloir aller plus loin.
Présenté par l'AFCO, vous écoutez FrancOuest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
Le Highline, le Slackline, c'est pas mal la même chose. Tu marches sur une sangle. La différence, c'est la hauteur à laquelle tu la mets. Souvent, une slackline, tu la vois entre deux arbres au parc. Et une highline, ce sera entre deux montagnes, entre deux buildings, entre des crevasses sur un glacier, n'importe où qui est en altitude où t'as besoin d'un harnais et d'une sécurité.
Mia Noblet a grandi à Nelson, en Colombie-Britannique. Et elle accumule les records mondiaux en équilibrisme sur sangle, slackline. Elle a été couronnée pour la première fois en 2016, un an seulement après avoir été initiée à ce sport de loisir. Son exploit? Avoir franchi 222 mètres au-dessus des chutes de Hunlin dans les montagnes côtières de la Colombie-Britannique. Ce que la jeune femme apprécie le plus? Se consacrer au moment présent en marchant. Pendant plusieurs heures parfois, en équilibre, sur une sangle souple et élastique, fixée à deux points d'ancrage et suspendue au-dessus du niveau du sol. Un documentaire sur Mia, sorti en 2021, intitulé « Desire Lines », suit l'équilibriste alors qu'elle retourne dans sa ville natale. Elle nous parle ici de son parcours et de ses projets.
Mes deux parents sont français, mon frère plus âgé aussi est né en France. Ils ont migré au Canada, moi et mon plus jeune frère. On est né au Canada, moi à Vancouver, et puis ils ont déménagé à Nelson. Alors, c'est un peu là où j'ai grandi. Mon père, il est pilote. Il a la compagnie d'avion Kootenay Lake Aviation, ici à Nelson. Et il enseigne les licences privées et commerciales. Et puis, ma mère, en ce moment, elle fait un grand voyage en bateau à voile. Elle fait un voyage de Panama au Mexique. J'ai grandi à Nelson, mais je suis repartie à Vancouver pour le patin originalement. Et puis, c'est là où j'ai vraiment commencé le sac. Et j'étais partie pas mal jeune de la maison et de Nelson. Et c'était cool de revenir justement à Nelson et d'avoir la chance de faire des projets avec Douglas. Mon frère, il a toujours été beaucoup dans la montagne. Il adore faire la photographie, il est pilote. Il fait beaucoup de différents trucs à l'extérieur, dehors et tout. Et puis, il aime bien construire des ancres pour mettre les highlines et toutes sortes de missions si ça lui plaît. Que c'était cool de rentrer, d'avoir la chance de faire des projets avec Douglas. Il aime pas trop ça, l'idée de lui faire du slack, mais il adore venir aider à installer et faire partie du projet.
Est-ce que vous êtes une famille d'aventuriers?
Je suppose que oui. Il y a toutes sortes de différentes aventures, comme ça peut être une aventure d'écrire un livre, ça peut être une aventure d'aller faire un tour de bateau à voile ou de faire un avion. Je pense que quand tu commences à y penser, tout le monde est sur une grosse aventure. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup été dans l'aventure qui t'amène dehors, qui t'amène à comprendre et travailler avec l'environnement dehors, que ce soit les vagues et le vent et la mer, ou la montagne, la neige. C'est certainement des aventures.
Comment vous viviez ça, comme famille, d'être tous dans des sports ou des emplois qui ont un certain danger, une certaine distance?
On voit ça comme normal, même si peut-être sur une vue extérieure, ça n'a peut-être pas l'air 100% normal ou c'est peut-être différent, mais je pense que c'est normal. Que c'est pas, c'est d'y penser pas vraiment plus que ça. T'as envie de faire quelque chose, tu fais ce que tu veux faire. Peu importe si ça t'amène à voyager en voile ou t'amener 8 semaines sur ski en montagne ou peu importe ce que c'est un peu, tu veux faire quelque chose, même s'il y a des risques, mais il y a des risques dans tout. Tu prends ta voiture pour aller au parc de Kokanee ou quelque chose, t'as des risques là aussi. T'en as peut-être même plus que 8 semaines en ski. probablement plus même que de marcher 2 km en highline, que à la fin de la journée, c'est quoi le risque et ça sert à quoi de vivre si tu vas pas faire ce que tu veux, mais il y aura toujours du risque, peu importe ce que tu fais. Alors autant aller faire ce qui t'amuse. T'sais, tant que t'es vivant, va vivre. Une fois que t'es mort. Alors si tu vas t'amuser, va faire ce que tu veux faire.
Comment tu te définis?
Bonne question. Je pense que j'ai toujours fait ce que je faisais, peu importe ce que c'était. J'ai commencé beaucoup dans le patin et j'ai changé dans la slackline plus tard. Et je pense que c'est vraiment juste pour le plaisir de faire ce que j'aime faire. Et j'ai toujours aimé être dehors en montagne. Que pour moi, c'est vraiment la chance de faire quelque chose qui m'amuse, quelque chose que j'aime faire. Et puis la chance de le partager avec d'autres gens, d'aller à des festivals, de voyager, faire des projets, d'amener ce que moi j'aime faire. Je pense que ça fait, je pense presque 6 ans maintenant que j'en fais. Vraiment au début, il y a toujours un gros moment pour tout le monde qui fait du highline. Quand t'apprends, ça fait peur. Tu dois vraiment apprendre à connaître ton matériel et faire confiance à ton matériel et faire confiance à toi-même et pouvoir marcher, pouvoir le faire sans être tenu trop par la peur. Et je pense que le moment où tu commences à vraiment être à l'aise à faire ce que tu fais, c'est un moment spectaculaire parce que d'un seul coup, la peur, elle est peut-être là encore, mais elle est pas là de bloquer, elle est pas là à t'empêcher à faire ce que tu veux faire, elle est un peu dans l'arrière. Et ça, c'est un bon moment. Je pense que je peux parler pour tout le monde qui a du slack, plus que un accomplissement spécifique d'une ligne particulière. J'aime bien aller en France. Une partie de moi et beaucoup de mes voyages de récemment, c'était beaucoup pour le slack. Alors souvent, j'ai quand même été visiter la famille de temps en temps. Et c'est cool d'aller visiter la famille. C'est de la famille, même si je ne le vois pas souvent. Mais beaucoup de mes voyages étaient vraiment sur le slack. Et presque, je me sens plus connectée avec les opérins quand ça devient à des projets slack. C'est beaucoup plus la mission sans la fête, sans boire de l'alcool. Et moi, j'aime pas trop ça, le mélange entre les fêtes et l'alcool et le slack. Et c'est beaucoup en Amérique du Nord, aux US, au Canada, il y a quand même pas mal de ça. Et en Europe et en France en général, tu sais, il y a toujours des fêtes partout, mais c'est beaucoup moins dans la communauté de slack. Que souvent, en fait, je me sens presque plus à la maison en France et en Europe quand ça devient à la communauté slack. Je pense que surprenamment, les gens qui participent à ce sport, et ils sont souvent quand même plutôt dans leur corps parce que ça prend d'être pas mal, c'est sûr de toi et capable quand tu vas marcher des lignes entre 2 montagnes, entre 2 canyons, que surprenamment il n'y a pas eu tant d'accidents que ça, mais c'est pas quelque chose qui, les gens sont souvent plutôt sécuritaires, c'est quelque chose qui moi ça me plaît pas. Je trouve que ça fait peur parfois quand tu vois des gens qui sont pas 100% eux-mêmes sur le bord de falaise, mais surprenamment tout le monde se tient bien quand même en sécurité des falaises et tout ça, mais c'est juste un truc qui me plaît pas, moi.
Est-ce que tu considères que c'est un sport dangereux?
En général, je pense que c'est plutôt sécuritaire tant que tu fais tout bien. Parce que l'installation de la ligne, quand c'est là le moment où tu dois faire attention que tout soit bien fait. Et une fois que tout est bien fait, une fois que t'es dessus, tu sais, tu peux tomber, tu vas pas cogner des cailloux, t'es dans le vide, que t'as pas grand moyen de te faire mal. Évidemment, il y a, comme tu peux être dans des conditions de vent où il peut y avoir un orage, et là, il y a certainement d'autres potentiels dangers qui peuvent arriver. Mais généralement, quand tu fais une ligne d'une distance raisonnable, c'est plutôt sécuritaire. Si tu commences à aller faire des lignes de kilomètres de long, là, tu commences à passer plus de temps sur la ligne, t'es plus loin de n'importe quelle sortie, qu'il y a d'autres dangers qui arrivent. Alors, ça dépend ce que tu fais, où c'est, les longueurs de ce que tu fais, l'environnement, la météo, mais en général, si tu veux le garder sécuritaire, ça peut être très sécuritaire. T'as un baudrier d'escalade normal, et puis t'es attaché avec ta ligne de vie à ton harnais, comme tu grimpes en escalade, t'as 2 anneaux, et tes 2 anneaux passent à travers ta ligne que tu marches et ton backup. Que t'as une ligne tendue et une ligne en dessous sans tension qui est là comme sécurité.
Comment est-ce que tu te distingues dans ce sport-là?
Pas de question. Je pense que vraiment les derniers 5-6 ans, c'était vraiment tout ce que je voulais faire, tout ce que je faisais, c'était vraiment le slack. C'était un peu la chose où je mettais toute mon énergie, tout mon temps. Et je sais pas, moi, tout ce que j'ai fait, c'était toujours vraiment pour m'amuser, que c'était vraiment juste quelque chose que j'aimais faire et j'allais trouver des gens pour partager ce que j'aimais faire, qui aimaient faire la même chose que moi, que je pense pas que je me distingue en tant que nécessairement eyelineuse ou slacklineuse ou teneur de record du monde ou des trucs comme ça. C'est un peu juste mon truc. J'aime bien faire ce que je fais et tu sais, ça pourrait changer. Parfois, j'en fais beaucoup plus. Parfois, j'en fais moins. Je fais plus d'escalade ou plus de montagne ou plus de ski. Que je pense que parfois, je sais pas, quand tu te trouves au milieu d'une grande ligne, c'était tellement petit dans un monde tellement grand que parfois tu penses que t'es juste un tout petit partie de quelque chose de tellement plus gros que souvent j'aime bien faire mon truc tranquille de mon côté et puis le garder comme ça.
Mia est trop humble. Voici juste quelques-uns de ses records époustouflants. Avril 2018, record du monde féminin de Highline au Brésil, 614 mètres. En mai 2018, Highline en Chine en talons hauts. En août 2018, un nouveau record du monde féminin de Highline en Norvège, 1 km complet dans le ciel. Je pourrais continuer longtemps. Est-ce que tu peux pratiquer le Highline en solitaire ou tu dois nécessairement travailler avec une équipe?
J'ai déjà essayé des lignes toute seule, deux fois des Highline toute seule. C'est beaucoup plus compliqué, certainement. Souvent, ça marche mieux. Tu peux faire beaucoup avec juste deux. Souvent, t'as quand même besoin d'un autre coup de main, mais ça se fait tout seul. Et moi, j'apprécie beaucoup. Mais une fois, tu sais, même si ça prend une équipe, le plus long tu tes lignes sont et le plus complexe l'environnement dans lequel t'installes les lignes, ça peut prendre plus de monde. Mais aussi, une fois que tu sais, tu fais ton truc et que sur ta ligne, t'es vraiment toute seule dans ton monde, tout seul. Et c'est pas, même si ça peut prendre une grosse équipe pour certains projets, c'est comme un sport qui mélange du travail d'équipe et aussi un sport complètement solitaire. Le monde qu'on a ces jours-ci, c'est tellement facile de se faire distraire et tirer dans différentes directions que je pense que ce que je préfère du Highline, c'est que quand t'es sur la ligne, il n'y a plus le passé, tu t'en fous du passé, le futur, tu t'en fous, c'est vraiment, ça t'amène dans un moment très présent, très précis, de le pas que t'es en train de faire, la respiration que t'es en train de faire, comment tu te sens à la seconde que tu vis. Et c'est pas, il y a plus de futur, il y a plus de passé, il y a plus rien, ça n'existe pas, c'est juste maintenant. Et je pense que dans ce monde-ci où tout est tellement complexe, compliqué et ça bouge vite, c'est agréable de juste ralentir et être vraiment présent dans le moment précis. Et le Highline, ça t'amène là très facilement.
J'adore que tu dises ça, parce que d'un œil extérieur, on a souvent l'impression que c'est un sport pour junkie d'adrénaline.
Yeah, c'est souvent pas très compris, dans le sens, c'est souvent adrenaline junkie, et ils sont fous, ils aiment bien se faire peur, mais en fait, c'est presque une méditation active, si tu veux le mettre comme ça, parce que tu sais, il peut y avoir de l'adrénaline quand même, c'est un gros coup de vent qui te surprend ou tu pensais, tu sais, tu étais vraiment relax, tu marchais, et puis tu mets ton pied de travers et tu t'attendais pas à ça et tu tombes peut-être ou tu tombes presque et ça peut t'amener peut-être ça te fait peur un peu, ça peut amener de l'adrénaline, c'est certainement, ça en fait partie, mais généralement, et là où tu veux aller, et là où tu marches bien, c'est quand t'as pas peur, t'as pas froid, tu te sens parfaitement en contrôle de chaque mouvement que tu as. T'es même pas en train de dire, ah, il faut que je bouge mon bras là ou que je bouge mon bras là pour rester en balance et continuer à marcher. Tu fais vraiment juste laisser ton corps faire ce qu'il sait faire et rester debout, et c'est presque une méditation.
Clinique dentaire Kootenay Lake. La clinique dentaire multilingue des Kootenays. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, Dr Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire.
ce qui me définit, je pense, en tant que dentiste, c'est que je suis comme une super généraliste, là, tu sais. Je fais des dentagesses, des traitements canal assez poussés aussi sur des molaires, tout ce qui est chirurgie, là, des gencives aussi.
Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais.
Tu sais, quand les gens y arrivent, puis sont tannés, puis ils ont mal, puis ils savent pas, comme, ce qui va se passer avec leurs dents. Ils ont honte un peu aussi. Tu sais, ça, c'est un gros feeling là, que les gens ont souvent là, par rapport à leur bouche. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Là, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Il y a toujours une solution.
Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucco-dentaire. Visitez la clinique dentaire Kootenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site kootenaylakedental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Front Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 1, Francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invitée aujourd'hui, Mia Noblet. C'est quoi ta réflexion par rapport au fait que tout le monde veut juste voir le plus gros stunt, la plus longue ligne, les plus grands exploits? Exemple, il y a une vidéo de toi en Chine, en robe jaune avec des talons hauts.
C'est intéressant parce que je pense, en général, en tant qu'humain, qui fait partie de tous les sports et de tous les trucs qu'on fait, il y a toujours cette envie de continuer à pousser plus loin, plus long, plus haut, plus dur, nouveau, différent. Et parfois, c'est pas le plus simple de dire comme, non, je suis content avec ça et j'ai pas besoin d'aller plus long, j'ai pas besoin d'aller plus haut, j'ai pas besoin de faire plus dur, j'ai pas besoin de mettre des talons qui sont plus hauts ou plus petits, je suis content avec ça, mais pour pouvoir continuer à évoluer et continuer à faire des projets et si tu veux faire de l'argent avec, si tu veux travailler comme ça, certainement tu dois prendre ce qui est offert dans un sens ou créer ce que tu veux créer pour des opportunités. Et moi personnellement, j'ai jamais essayé de faire le slackline être mon travail. J'ai plutôt dit oui à des opportunités comme aujourd'hui, comme là t'as quelque chose qui vient, pourquoi pas. C'est peut-être pas ce que je préfère, si par exemple les talons hauts, mais pourquoi pas, ce sera rigolo d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Et pour moi, autant que les talons au début, l'idée, ça me plaisait pas trop, je marche pas en talons hauts dans la vie normale, je pense que j'ai fait moins que 10 mètres en talons hauts sur le sol normal et prends plus que 500 sur une highline. mais c'était, j'ai pris ça comme une façon de me pousser, d'essayer quelque chose de nouveau. Et aussi, j'ai fait beaucoup de grandes lignes et à un moment donné, quand j'ai commencé ça, que je me rappelle, j'ai dit comment j'adorerais marcher un kilomètre. C'était un peu une distance dans ma tête que j'avais envie de faire. Et j'ai dit, après un kilomètre, ça sert à quoi d'aller plus loin? Comme par hasard, un jour, j'arrive à un kilomètre, quelques mois plus tard, oh, on fait une 2 kilomètres, ça t'intéresse? C'est comme, ben, oui.
C'est sûr.
C'est sûr, mais après, je fais 2 kilomètres, après ça, c'est que les gens disent, oh, 3 kilomètres, c'est comme une partie de moi, tu sais, j'ai envie de faire 3 kilomètres, c'est sûr, t'entends, c'est presque humain, presque incontrôlable, t'as envie d'essayer, c'est trouver la limite, voir ce qui est possible. Et une partie de moi, maintenant, avoir marché 2 kilomètres sur une highline, j'ai comme, j'aimerais bien, j'ai vu une ligne de presque 3 kilomètres qui était détruite par le vent avant que je puisse l'essayer. Et le fait d'avoir vu une 3 kilomètres, j'ai la ligne dans la tête. J'aimerais bien quand même essayer une ligne de 3 kilomètres. Mais une partie de moi aimerait ne pas avoir envie. Mais je sais que j'ai encore envie. Ce qui est une intéressante situation à me trouver, c'est presque, tu te demandes à quoi ça sert et pourquoi vouloir aller plus loin. Mais, parce qu'il y a quand même des dangers qui viennent avec des lignes de ces longueurs, parce que t'es sur la ligne pour vraiment longtemps. Et les conditions peuvent changer vite et t'as pas vraiment de moyens de te sortir de là s'il y a un problème. Que le risque est certainement plus élevé que ta ligne habituelle de 100 mètres ou 200 mètres ou 50 mètres. Mais une partie de moi a encore envie. Alors, je sais pas encore je pense que j'ai encore à trouver c'est quoi la limite, de à quoi ça sert de pousser plus en plus loin, et c'est quand la limite où c'est comme non, c'est assez, je vais faire des lignes plus petites, mais peut-être les mettre en montagne plus intéressantes ou entre des glaciers, mais je suis encore à la, au moment où je sais pas encore combien loin je vais encore aller, et quand je dis que c'est assez, c'est, il faut être un peu plus tranquille, et ça sert pas forcément à quelque chose de continuellement pousser. Que parfois, faut juste s'arrêter, être content avec moi.
Il y a une superbe citation de toi qui dit « J'aime tout simplement marcher. »
Yeah, c'est ça, c'est vraiment juste ça que j'aime. Les gens, ils sont toujours comme « Ouais !» Comme ils font toujours des records ici. Et puis, d'une partie, oui, c'est cool d'avoir un record. Oui, c'est cool d'avoir la chance de marcher quelque chose qui n'a jamais été marché avant. Mais à la fin de la journée, la raison pourquoi je fais ce que je fais, c'est parce que j'aime exactement juste marcher. Juste le moment avec toi où t'es juste tranquille, il y a rien qui est important, c'est juste t'es là, t'es en train de marcher, tu fais ton truc et t'es dans un environnement tellement beau, t'as les oiseaux au-dessus, les oiseaux en dessous, les nuages, le vent, tu sens tout, t'es vraiment connecté à ton corps et comment ton corps se sent, que c'est vraiment, c'est pour ça que je le fais. Autant que ce que je dis, c'est que j'aime juste marcher. J'adore marcher pour longtemps sans être interrompu. Et c'est ça que les grandes lignes amènent, c'est que tu peux marcher pour longtemps dans une direction et de le faire sans tomber. C'est là où ça amène ce moment et cette concentration qui reste pendant longtemps. Et c'est une des choses que j'adore. Et quand je suis sur une ligne que j'ai envie de marcher sans être interrompu, sans tomber, que mon but c'est vraiment de marcher d'un bout à l'autre sans tomber, de finir la ligne, souvent j'arrive pas à me rappeler de ce quoi je pense. Je pense que je suis tellement présent dans juste le moment à sentir qu'est-ce qu'il faut, laisser mon corps bouger, faire ce qu'il doit faire pour rester sur la ligne, que souvent quand je descends je me rappelle plus trop. Comme la ligne de 2 km, j'ai passé un peu plus que 2 heures sur la ligne à marcher d'un bout à l'autre, et quand j'essayais de penser à c'est quoi qui était dans ma tête pendant que je marchais sur la ligne, il y avait peut-être quelques moments où ça devenait peut-être un peu dur. C'était comme, ok, allez, continue. Peut-être 2-3 fois sur, tu sais, c'est moins qu'une minute de ces pensées. Comme, ok, continue, c'est un peu dur, mais ce mot arrive dans ta tête et ça, tu te pousses à faire un prochain pas parce que c'est peut-être un peu dur dans une section. Mais généralement, j'arrive pas à me rappeler de ce que je pense, et je pense que tu entends les skieurs parler de zone. C'est là où ils vont, le flow state, ou les différents mots utilisés pour un endroit où je pense la plus facile façon d'expliquer, c'est un endroit où t'as pas, c'est pas de l'adrénaline, mais t'es vraiment plus connecté à qu'est-ce que tu fais et le laisse ton corps le faire par lui-même sans y penser. Et je pense qu'en highline, tu vas facilement, que tu veux l'appeler le zone ou le flow state, dans cet état d'esprit presque où tout flow tout seul, et puisque t'es pas dans le futur et t'es pas dans le passé, t'es vraiment dans ce moment, c'est vraiment juste, t'as rien dans la tête, c'est vraiment juste, t'es là.
J'adore que tu aies beaucoup parlé de ton état mental, psychologique. Pourtant, c'est un sport. On associe ça davantage avec le côté physique.
Yeah, physiquement, sur des grandes lignes, pour moi, je marche pas super, super vite. Comme si on regarde à les gens qui marchent les lignes de ces longueurs dans le monde, il y a des gens qui marchent beaucoup plus vite que moi, et il y a des gens qui marchent un peu moins vite que moi. Mais moi, je suis pas la personne à me presser. J'ai pas d'inquiétude à pas pouvoir être endurante pour une longue période de temps. J'adore l'endurance, j'adore ce qui prend du temps, que l'idée d'aller vite et de faire finir quelque chose plus vite, ça rentre même pas dans ma tête. Je prends le temps que j'ai besoin de prendre et j'y vais tranquille s'il faut y aller tranquille. Et ce qui vient avec ça, c'est que tu peux être sur la ligne pour des longues durées. Et par exemple, pour la 2 km, je pense que c'était sur la ligne pour 2 heures et 15 minutes. Et si tu penses, imagine-toi sur une ligne, toute fine, et t'as des bras levés des deux côtés, tu dois quand même étirer tes bras, tu sais, pour te garder debout sur la ligne à marcher, que t'as quand même si tu peux relaxer, qu'il y a des moments où c'est vraiment pas si dur, tu sais, c'est un peu comme un trottoir. Une fois que t'apprends à marcher, tu sais, tu mets un pied devant l'autre et tu continues. Tu dois quand même garder une tension générale dans tes abdominaux, ton corps et dans tes bras, et tu dois tenir ta posture, tu dois être droite. Et ça prend quand même de l'énergie, même si l'idée dans les grandes lignes, c'est de trouver ce qui prend le moins d'énergie. Et quand c'est facile à marcher, quand ça semble comme un trottoir, tu vas vite, t'avances et t'essayes de relaxer tous les muscles possibles en restant debout et en restant en train de marcher. Et dès que ça devient plus dur, il y a des moments, que ce soit le vent, que tu as des coups de vent qui te poussent à la ligne, parce que ça peut te pousser à la ligne 15-20 mètres de côté, même sur des lignes, ça déjà arrive de pousser genre 50 mètres de côté, parce que les lignes sont très longues, alors c'est un peu comme une voile. Et quand tu as des coups de vent comme ça, c'est beaucoup plus dur et tu dois vraiment être plus rapide à corriger ton corps pour qu'il reste droit sur la ligne. Alors, t'as certainement plus de tension dans les bras, dans les épaules, dans les abdominaux, et tu dois vraiment être très présent dans qu'est-ce qu'il faut faire pour rester debout. Alors ça devient beaucoup plus dur. Et aussi, certaines sections de la ligne, parfois, t'as des sections qui bougent différemment et qui peuvent réagir un peu plus vite, parce que quand tu marches, tu fais quand même parfois des erreurs où tu poses ton pied un peu lourd, ou d'un seul coup tu te sens un peu tendu, et la ligne va bouger différemment à combien tendu toi tu es. Alors le plus relax tu es, le plus facile c'est à marcher, mais parfois, tu sais, tu peux pas être relax tout le temps, tu vas te tendre, tu vas te sentir fatigué, t'as un coup de vent, t'entends un bruit, il y a quelque chose qui va peut-être te surprendre, te faire peur et t'amener de la tension, et ça peut rendre la ligne plus dure à marcher. Je m'entraîne pas vraiment spécifiquement pour le slackline ou le highline ou quelque chose de spécifique. C'est un peu toujours, tu sais, j'en fais quand il y a les conditions pour le faire. Enfin, tu sais, ça m'arrive d'en faire dans la neige, dans la pluie aussi, mais souvent, tu sais, t'as envie de qu'il soit sec et beau dehors. Et le plus j'en fais, le plus ça met le temps que t'as sur des lignes et le plus ça t'entraîne. Mais j'ai jamais vraiment pensé, oh, il faut que je m'entraîne pour ça et c'est ça qu'il faut que je fasse tous les jours ou tous les deux jours. Que c'est souvent mon entraînement, c'est un peu quand j'ai envie d'en faire, j'en fais. À part peut-être en Chine pour les talons hauts, là j'ai pris quinzaine de jours pour m'entraîner avant d'y aller,
spécifiquement
pour pouvoir faire avec les talons hauts. Sinon j'ai fait en Chine aussi aux yeux bandés, et j'avais jamais vraiment fait du highline aux yeux bandés avant qu'ils m'ont dit est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux marcher 430 mètres avec les yeux bandés. J'ai dit, je sais pas, j'ai jamais fait. J'avais marché, je pense que plus que environ 500 mètres avec les yeux pas bandés normalement, et j'ai aucune idée si je peux marcher 400 mètres. Et là aussi j'ai passé quelques jours à m'entraîner pour voir si c'était même possible. Et alors, quelques fois comme ça pour des événements spécifiques, mais sinon, je vois pas vraiment comme un entraînement. C'est quelque chose que je fais, comme, tu sais, tu vas promener ton chien, ou, tu sais, tu brosses tes dents, ou tu vas manger ton petit déjeuner, ou ton dîner. C'est un peu la même chose. Quand je veux en faire, j'en fais. Quand j'ai des idées de projets qui m'intéressent, je les fais. Et quand il y a des opportunités qui viennent, où je suis invitée, souvent je les fais si j'ai la chance, et puis, c'est un peu comme ça. Quand j'ai commencé slackline, j'ai vraiment tout dans la slackline, et c'est un peu ça que ça prend pour pouvoir faire confiance à l'équipement, à toi-même et à vraiment pouvoir progresser. Et là, je suis arrivée à un moment donné où j'ai marché plus long que ce que j'avais vraiment envie de marcher. C'est, j'ai encore envie de marcher plus loin, mais j'ai envie de plus avoir envie. Mais je suis un peu arrivée à un point où j'ai fait pas mal ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça m'a ramené à un moment où dire comme, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux ajouter? Et dans les dernières 2 ans, j'ai fait plus de ski, un peu plus d'escalade, et j'aimerais faire plus de montagne, être plus confortable, avoir plus de connaissances dans d'autres disciplines en montagne, pour faire, par exemple, juste de l'escalade, mais aussi pouvoir combiner plus de projets de highline avec des projets d'escalade plus complexes. J'aimerais bien aller, tu sais, à des places différentes où ça t'amène, ou peut-être tu vas en bateau à voile en Alaska et tu fais de la montagne, tu fais du ski, tu fais du highline, tu mélanges, tu fais des projets qui sont pas juste un sport, mais plusieurs sports. Et je pense qu'à ce point-ci, des projets juste highline pour faire du highline, ça m'intéresse encore certainement, mais plus d'ajouter du ski de randonnée, de l'escalade, marcher sur un glacier, c'est pas conduire 2 minutes, marcher 5 minutes et mettre ta ligne, c'est... T'as peut-être marché 6 heures avec ton sac sur le dos et tu fais ta ligne en montagne, là où il y a personne autour. Des trucs comme ça m'intéresse plus, que c'est plus du skyline, c'est la montagne. D'ailleurs, il y a un nouveau film qui sort, qu'on a travaillé sur les derniers deux hivers, qui s'appelle Desire Lines, qui est sur BIMF maintenant. C'est pas en français, mais ça mélange le ski et le highline en hiver. Et ça, c'est sorti maintenant. Et j'ai grandi à faire du ski à Whitewater ici, et mon frère fait beaucoup, il fait de la patrouille, il fait beaucoup de grandes randonnées, même il a fait 6-8 semaines de randonnée, il a traversé plein de montagnes, il a fait toutes sortes de missions en ski, et il travaille aussi dans l'industrie d'avalanche.
Ça, c'est Douglas,
ouais. Et du coup, d'avoir la chance de, je suis partie pas mal jeune, quand je faisais du patin, j'avais 15-16 ans quand je suis partie, que j'avais envie d'avoir la chance d'apprendre Douglas et de faire des nouveaux projets, mais de faire bien attention de les faire, tu sais, en sécurité, vraiment prendre le temps d'apprendre ton environnement, d'apprendre comment faire d'une façon sécuritaire. Et il n'y avait rien qui semblait mieux que de revenir ici, parce que on a des montagnes partout, on a des projets partout, et puis il y a Douglas, que j'aime beaucoup faire des projets avec Douglas, que c'était juste parfait de revenir ici. Et c'est cool d'avoir la chance d'avoir, tu sais, grandi ici, puis maintenant j'aurais jamais imaginé, tu sais, quand on skiait à la station et on faisait beaucoup de ski de randonnée quand on était jeune aussi, qu'on allait revenir et mettre des lignes dans des places où on venait, que j'y allais quand j'avais 10 ans, 11 ans, faire du ski de randonnée, on montait. Et c'est cool de revenir maintenant et d'avoir la chance de faire quelque chose de nouveau avec la même montagne.
Quand tu voyages à travers le monde, est-ce que tu te sens comme une ambassadrice?
Je suppose que dans un sens, oui. Avec la communauté de Sackline, évidemment, j'ai pas voyagé vraiment depuis COVID, mais généralement, tu sais, en Europe, partout où tu vas, il y a toujours une place à rester. Comme il y a des pages, les gens, ils font des pages Facebook de Sackline Munich, Sackline Paris, Sackline Berne en Suisse, et tu peux vraiment aller partout. Tu peux juste t'envoyer un message sur une page et je passe dans le coin, je suis là. Et puis la communauté est tellement, elle est grande et partout est très, et elle est grande, mais en même temps, c'est encore petit. Dans un sens, c'est partout, mais les gens se connaissent assez. Certainement, ça aide d'avoir fait ce que j'ai fait dans le sport du Sackline, que les gens me connaissent, ils veulent venir faire des projets avec moi. Et ils sont super contents, tu sais, d'apprendre. Et souvent, les gens, ils sont comme, moi, j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement à faire. J'ai comme, tout le monde a toujours à apprendre. Et c'est ça le truc, c'est que moi, une de mes raisons que j'aime bien travailler, de voyager et de faire des projets et faire des projections du travail avec le Sackline, c'est d'avoir la chance, justement, d'apprendre d'autres gens aussi, parce que tu peux toujours apprendre, que ce soit un débutant, tu peux apprendre d'un débutant, que ce soit quelqu'un qui a fait un an qu'ils en font, tu peux apprendre de tout le monde. Et que même si parfois les gens, tu sais, ils se pensent, oh, ils veulent que je vienne parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent, c'est comme, on est tous les deux en train d'apprendre, ça change pas vraiment, que tu sais, chaque étape, tout le monde font leur voyage de début à leur progression différemment. Il y a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde. Et autant que je pense que je suis beaucoup vue dans le monde du Sackline à quelqu'un qui a fait beaucoup et a beaucoup à apprendre de moi, je pourrais pas dire non à ça. Les gens, tu sais, ils voient ce qu'ils veulent voir, mais moi, je trouve que je peux apprendre autant de tout le monde qui est autour. Et c'est une des raisons que j'adore voyager et que j'adore voir, parce que peu importe où tu vas, toujours il y a des petites différences, des petits trucs qui sont nouveaux, des trucs que j'aurais jamais pensé, et tu peux apprendre partout, et c'est ça qui est fascinant, et c'est différent, et en même temps pareil partout. Alors moi, c'est une des choses que je préfère, et que tout le monde, que ce soit comme beaucoup de sports traditionnels, t'es vraiment bloqué dans ton niveau, tu sais, c'est ça ton niveau, c'est ces gens que t'es autour, tu sais, c'est ces compétitions, ces projets. Tu sais, c'était en patin de vitesse, c'est cette vitesse, cet âge. Et t'es vraiment mis en paquet de plus ou moins le même niveau. Mais en slackline, t'as des débutants et des gens qui en font depuis des années, qui ont des records, qui sont dans les mêmes événements, dans les mêmes festivals, qui font les mêmes projets. Et je pense que c'est un des trucs qui a permis au sport de grandir aussi vite. C'est que, justement, t'as ce mélange de tout le monde. Et du coup, il y a plus à apprendre, parce que tu peux apprendre et voir de tout le monde. Et c'est un truc que je trouve qui est unique au Sackline, au moins de ce que j'ai vu maintenant, c'est que t'as vraiment tout le monde à la même place, qui est vraiment chouette.
Comment est-ce que tu te définis par rapport à la francophonie?
Sûrement bilingue, je suppose. À la maison, avec la famille, je parle toujours en français. Mais comme que ce soit français ou anglais, parfois je mélange les deux. Je pense que bilingue, ce serait probablement plus ce que je dirais. Parfois, quand je parle pas français pour longtemps, c'est agréable de reparler français, plus que si je parle français pour longtemps, je manque moins l'anglais quand je parle juste un, je pense. Comme si je vais en France et que ça parle toujours français, et je vais pas être comme, j'aimerais bien entendre l'anglais, mais si je suis autour de que des gens qui parlent anglais, ça me fait plaisir d'entendre des gens qui parlent français, mais je pense que c'est encore, je me considère bilingue et je change des deux confortablement.
Comme plusieurs personnes ici.
Yeah. Ben, il faut ici quand même parler anglais, c'est pas si facile si tu parlais du français.
Et pour toi, c'est quoi ton plus grand exploit dans ta carrière?
C'est une bonne question aussi. Probablement la ligne de 2 km. C'était Asbestos au Québec. J'ai un ami qui fait du slack à Asbestos et le père de cet ami, tu sais, ils allaient voir la mine, le grand trou, et puis il sait que son fils faisait du highline. Il dit, tiens, tu peux pas mettre une ligne là? Et son fils a regardé, il dit, tu rigoles, c'est bien trop loin, ça se fait pas. C'est plus long que ce qu'on aurait jamais imaginé possible dans le temps. L'idée, c'était d'amener quelque chose de positif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent peut-être d'un côté un peu négatif. Ouais, c'est Asbestos, la mine d'Asbestos, et c'était un peu une idée d'amener quelque chose de nouveau et positif et utiliser l'espace qui est là. C'était vraiment chouette d'avoir la chance de, tu sais, faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui existait déjà. Et je pense que ça, peut-être dans le monde du slackline, dans ce que j'ai fait, c'était probablement un peu ce qui était plus reconnu, surtout le record de highline en distance. Il y avait le record féminin, le record masculin. En Asbestos, c'était la première fois où les deux records étaient le même. Mais deux lignes, on a fait une de 1.9 et une de 2. Et la première fois, on a 6 personnes qui ont réussi à marcher sans tomber, 5 gars et puis moi. Et puis, à 2 km, moi, j'étais la première à la marcher. Pour un moment, pour une journée et demie, le record était juste une fille et le record des gars était en dessous de la distance. Et ça a amené pour pratiquement tous les sports. Tu sais, les gars sont toujours plus rapides, toujours plus forts, toujours plus loin. Et il y a toujours une différence. Ce projet a permis d'avoir le record être le même, qui est chouette parce que même si c'est physique, c'est aussi beaucoup mental. Et pour une raison, ou une autre, c'était jamais passé avant, il y avait jamais, c'est plus dur de faire quelque chose qui a jamais été fait avant. Pour des filles, n'importe où qui font du highline, d'arriver à dire, oui, je peux faire la même ligne, je peux marcher la même ligne, il y a toujours quelque chose qui bloquait dans le cerveau. Et c'était cool, et je pense que ça a beaucoup changé dire non, c'est possible, c'est pas si dur que ça, ça prend du temps, ça prend des heures, mais ça se fait.
Est-ce que tu vois ça comme un travail?
Il faudrait définir ce que t'appellerais un travail, je suppose. J'ai certainement fait de l'argent avec, alors je suppose que c'est ça, un travail, c'est quelque chose avec lequel tu fais de l'argent. Et j'en ai certainement fait, j'ai travaillé avec le show avec Discovery Plus aux États-Unis il y a un an exactement, en fait, à Moab, au Utah. Et ça, c'était totalement un travail, t'es payé, tu signes un contrat, tu fais ce que t'es supposé faire. Et alors ça a certainement été un travail à certains moments, mais je pense pas que c'est toujours un travail. C'est parfois un travail.
Ça m'étonnerait quand même que pour toi, tu vois ça juste comme un travail.
Pas du tout. Et comme les gens, il y a les 4 ou 5 qui vivent seulement de ça, ils passent leur temps à chercher des contrats. Et il y en a la moitié qui passe à l'eau, il y en a l'autre qui marche. Et tu es vraiment en train de travailler pour essayer de trouver du travail. Et après ça, une fois que tu trouves du travail, tu vas faire ton travail. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Comme j'aime bien travailler 2 ans à Whitewater, j'aime bien changer un peu les trucs, faire des choses différentes et c'est changer un peu ce que je fais. C'est pas autant que j'adore le slackline, j'ai pas envie d'aller chercher du travail et faire des trucs. J'ai pas envie d'aller marcher en talons tous les 2 mois parce que c'est ça qui plaît aux gens. Ça m'intéresse pas du tout. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour voyager autant, comment tu fais pour faire autant d'argent, pour faire tout ce que tu fais. C'est comme tu peux voyager et faire tellement de trucs avec tellement peu. J'ai jamais eu d'inquiétude à trouver un travail qui fait un certain quantité d'argent par an. J'ai un peu, qu'est-ce qui m'amuse maintenant? Oh, ça semble cool, je vais faire ça. Je pense que je continuerai à faire ça pour toujours. Autant que j'adore aller en Europe, ce que je trouve particulièrement cool de BC et spécialement ici, c'est que t'as tellement de place et t'as tellement de montagnes, t'as tellement de de missions et de projets que tu peux faire où il y a personne. Il y a rien, il y a pas les gondolas qui montent en haut les montagnes, t'as pas les petits trains qui font des tunnels à travers les grosses montagnes et tu peux aller voir la vue et boire un café ou à, je sais pas, 5000 pieds ou je sais pas quoi, et t'as vraiment une opportunité de faire plein de trucs où il y a peu qui a encore été fait. Et je pense que le fait d'avoir autant de places et autant d'aventures qui n'ont pas été faites encore, bien que t'en as plein aussi en Europe, t'as presque plus de possibilités à faire des projets nouveaux ici.
Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série Franc Ouest sur la plateforme balado de votre choix et de nous laisser un commentaire 5 étoiles. C'est la meilleure façon d'assurer la survie de notre projet. Et si chaque personne prend le temps de le partager avec un ami, on pourra continuer longtemps à vous faire découvrir notre francophonie sauvage. Franc Ouest, une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Consultant technique, Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Cuckoo Tales, Kent Kataoka, Patrick Lack and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Gérald Lasselle, Marie-Paul Berthiaume, Anthony Sana, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lack. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.